Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barta si vous nous écoutez. On est en direct et 48 FM car j'adore. On n'a pas pu le faire depuis un an et demi à peu près. Voilà, mais c'est reparti. Je suis avec Adèle de 48 FM. Bonjour Adèle.
Salut.
Ça fait plaisir quand même de dire qu'on peut faire des plateaux
en
ensemble.
Plus il fait beau.
Trop génial. Et nous sommes à Balsièges au Bec de Jeu pour la journée paysanne de la Confédération paysanne. Ce joli matin d'octobre comme tu le dis. Merci vraiment beaucoup à tous celles et tous ceux de la Confédération paysanne qui nous accueillent, quoique. Bon, je vais vous expliquer. C'est génial, hein, le but avéré des journalistes, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est de nous intéresser à tout. Voilà, Barta c'est 48, nous ne sommes pas des médias d'opinion, faut être objectif, bref, on est loin des médias mainstream, comme on dit, on essaye de faire du local, et quand on nous accueille, on discute et on demande de quoi ils, elles veulent causer. Et nous, on s'adapte. J'ai donc, début de semaine dernière, reçu un mail de notre chère Cynthiana, que je salue, elle est animatrice syndicale pour la Confédération Paysanne, et accessoirement dans notre conseil d'administration. Voilà, c'est un peu ma patronne, et je sens qu'elle voulait nous faire souffrir. Ah, les patrons, vous savez ce que c'est. Donc, voici la première phrase de son mail début de semaine. Salut Ben. Après notre réunion d'hier soir, c'est le sujet du foncier qui l'emporte à travers le prisme particulier des sectionaux. Nous sommes lundi, il n'est pas 17h, je suis à 3 aspirines et je vais me coucher direct. Bref, après un coma d'environ 10 minutes, je continue le mail et je vois les invités. Muriel, bonjour.
Bonjour.
tu es là, ça me rassure parce que je me dis qu'avec même avec 4 questions stupides de notre part, tu vas répondre intelligemment. Donc là, ça m'a vraiment beaucoup rassuré. Muriel, tu es élue à la Chambre d'agriculture pour la Confédération paysanne. Merci d'être là. Tu es accompagnée par Julien. Bonjour.
Bonjour.
Julien, tu es co-porte-parole de la Confédération paysanne. Nous sommes aussi en plateau avec Alain Levé. Bonjour.
Bonjour.
Alain, tu es membre de l'AFASC, la force de défense des ayants droit de section de commune, c'est ça?
Vous êtes bien renseigné.
Ouais. Attends, c'est que le début. Après, c'est après que ça se gâte. Et François, bonjour.
Bonjour.
Bon François, quand tu es là, peu importe le sujet, ça me rassure souvent. Merci beaucoup. Tu es ici en tant que membre de l'association Les Amis de la Conf, dont une nouvelle énergie commence le 16 octobre, c'est ça? Vous cherchez un second souffle, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, on cherche toujours de l'énergie, hein. C'est constant ça.
C'est constant. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Et ben voilà, j'ai pas noté ton prénom. Bernadette? Brigitte? Bernadette.
Bernadette,
on va partir sur Bernadette, trop cool. Bernadette, bonjour.
Salut.
Bonjour, tu es productrice de viande bio à Grand-Rieux, c'est ça? Et tu es concernée par ces fameuses sections, ces sectionaux, comme on dit.
Voilà.
On va en parler. Voilà donc que le décor est planté. Vous l'aurez compris, on va parler foncier, de sectionnaux, de propriété, d'exploitation. Et c'est vrai, sur le papier, eh ben, ça sonnait pas trop. Et puis on a commencé à lire, à se renseigner sur le sujet. Et on a découvert plein de choses. Et on a découvert que les habitants étaient aussi, les particuliers, comme on dit, sont aussi concernés. Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur le 48 FM. On est à la fête de la Confédération paysanne. Et ça va être bien. Alors, difficile de commencer tant le sujet est vaste. Il est évident qu'on va parler de foncier, de terres agricoles, tout ça. La Lozère, c'est vaste. Muriel, d'abord, est-ce que le problème, entre guillemets, des terres agricoles est le même dans tout le département? C'est-à-dire l'accès au foncier. Est-ce que c'est pareil partout, en Sud-Lozère, en Nord-Lozère?
Alors, l'accès au foncier, oui, on peut dire qu'il est problématique dans l'ensemble du département. Après, pour des raisons plus ou moins diverses selon les territoires. Mais il y a une problématique d'accès au foncier qui est récurrente en Lozère et en France en général. Il y a, derrière, il y a sous-jacent les enjeux liés à la PAC, en gros.
Voilà. On va parler de tout ça. Alain, qu'on commence et qu'on comprenne bien, de quoi il s'agit quand on parle de sectionnaux, de sections?
Bon, pour faire simple, je veux dire, le domaine est très très compliqué. Au plus simple, on va dire, quand on est habitant dans un village, on est membre de... On fait partie des ayants droit. On fait partie des ayants droit du village pour profiter des sectionnaux. Parce que les sectionnaux, c'est aussi bien des terrains pastoraux que des forêts. Et donc, en ce moment, on peut dire, c'est la période où les cèpes sortent dans les bois, où les gens collectent et portent souvent les champignons, les cèpes des collecteurs. Normalement, c'est les ayants droit qui ont le droit de vendre en tant que comme propriétaire. Après, sinon, à côté, il y a une tolérance. Mais normalement, c'est les ayants droit d'une section qui peut vendre, eux, les produits récoltés dans une forêt.
Okay. Alors, pour brosser un petit peu le tableau de ce que représentent les sectionaux en Lozère, on parle d'enjeu foncier. Donc c'est clair que les sectionaux représentent un réel enjeu foncier sur le territoire de la Lozère. Alors avec des spécificités, il n'y a pas de bien de section sur l'ensemble du département. En Cévennes, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. On retrouve les sectionaux sur les territoires où il y avait beaucoup de pastoralisme, donc sur l'Écosse, sur la Margeride, sur l'Aubrac essentiellement. Ce sont des terres qui étaient à vocation pastorale et qui n'étaient pas forcément les meilleurs termes en termes de valeur agronomique. Donc c'était des terres qui étaient, on va dire, destinées à ceux qui avaient le moins dans le village, aux paysans qui étaient les plus indigents, grosso modo, et qu'on mutualisait, qu'on partageait justement en essayant de favoriser les plus indigents. Donc il y avait quand même une fonction sociale assez importante de cette gestion collective. Pour revenir à la définition de la section c'est une partie, on va dire, plus petite que la commune, mais qui a une entité à proprement parler. Elle ne dépend pas de la commune. Donc les sections étaient gérées vraiment au sein du hameau, parce que la section, ça correspond en général à un hameau. Hein, Alain, tu me diras si je dis des bêtises, parce que je prétends absolument pas être spécialiste des sectionnaux. Et on a Marie-Hélène Legrand qui est pas présente aujourd'hui, mais qui est la présidente de la FASC et qui est vraiment la personne spécialisée là-dedans. Ce que je voulais dire aussi, les sectionaux, ça existait bien avant la Révolution française. Donc c'est quand même un héritage qui date de longue date et qu'aujourd'hui on a réussi à mettre à mal à travers différentes lois agricoles qui ont mis à mal un peu la gestion collective qui était vraiment liée à ces sections. Donc on y reviendra sûrement. Tu dois avoir des questions très intelligentes à me poser, donc je pense qu'on va y revenir. Et comme le dit Alain, c'était une affaire d'habitants. C'était pas qu'une affaire de paysans. Tout habitant de la section avait droit à de l'usage, à des droits d'affouage, ramasser du bois pour se chauffer, couper du bois pour construire. Et les paysans avaient droit aussi d'utiliser les terres pastorales. Donc il y a énormément de terres. Il y a les terres boisées et terres pastorales.
Alain Muriel, j'ai une question. Les sectionaux, c'est donc tout le monde. Enfin, ça fait partie de la commune, mais il y a quand même des catégories. On ne peut pas juste avoir. Enfin, même si je suis habitant et je suis pas un paysan, il y a quand même des règles pour faire partie, pour avoir un sectionaux.
Alors,
autrefois, c'est vrai que bon. Avec l'histoire, le monde rural a évolué. Avant, tout le monde était paysan. Tout le monde avait un cochon, deux chèvres, et tout le monde avait droit justement à part égale. C'était important, ça, à part égale à des terrains. Et maintenant, avec le monde moderne, souvent, quelquefois dans un village, il n'y a plus qu'un seul paysan. Et les autres, à côté, ne sont pas paysans, mais sont ayant droit malgré tout. Notamment, par exemple, quand il y a des forêts, sur la forêt. Et puis également, ils peuvent, par le biais d'une commission syndicale, ils peuvent également donner leur avis sur la gestion des terrains pastoraux.
Julien.
Pour donner un exemple sur l'utilisation des terrains sectionnaux, moi j'ai habité pendant 12 ans dans un village où il y avait une forêt sectionnale d'une centaine d'hectares. Donc c'est le hameau d'Ortizé, commune de Saint-Pierre-le-Vieux. Tous les habitants du village, qu'ils soient propriétaires ou locataires, pourvu qu'ils habitent à l'année, donc on disait que la cheminée fume depuis 6 mois par an, parce qu'en Lozère c'est bien le cas, il faut bien chauffer 6 mois par an. Voilà, donc pourvu qu'ils habitent à l'année et qu'ils soient là depuis plus de 6 mois, tout le monde avait droit à une coupe d'affouage. Donc en fait, la forêt sectionnelle était gérée, est toujours géré, j'en parle au passé puisque j'y habite plus, mais est toujours géré par l'ONF, et l'ONF met à la coupe une coupe d'affouage, donc c'est des arbres qui sont sélectionnés pour dégager et laisser de la place aux arbres d'avenir, et donc ces arbres sont destinés à la coupe d'affouage, donc de feu, pour se chauffer. Donc, mettons qu'il y avait 200 mètres cubes de bois qui sont sélectionnés pour être coupés. Le garde de l'ONF accompagné de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un habitant du village qui est garant de la bonne utilisation de la coupe. Et ce poste change tous les ans. Ça tourne quoi. Dans le village, il y a un entrepreneur tous les ans, et l'année d'après, c'est son voisin, et ça tourne comme ça. Et donc, l'entrepreneur faisait le tour du village pour voir combien d'habitants voulaient la coupe de bois. Et donc, mettons s'il y avait 20 affouagistes, donc ceux qui prennent la coupe d'affouage, 200 cubes divisé par 20 affouagistes, donc 10 cubes chacun. Les arbres étaient marqués avec des numéros de 1 à 20, et tous les habitants se réunissaient à la réunion du bois, on tirait au sort un numéro, et celui qui avait le numéro 2, et bien tous les arbres qui étaient marqués 2 dans la forêt avait le droit donc d'aller chercher ces arbres-là. Il avait 6 mois pour faire la coupe. Si au bout de 6 mois il n'avait pas fait la coupe, tous les arbres qui étaient marqués numéro 2, tout le monde pouvait les prendre. Voilà un exemple de l'utilisation non agricole pour le coup, hein, puisque c'était pas du tout réservé aux agriculteurs, mais à tous les habitants du village des biens de section.
Aujourd'hui, quand même, les biens de section ne concernent plus que les agriculteurs ou les paysans. On est d'accord.
Le droit d'affouage existe toujours.
Ah oui.
Il faut pas l'oublier. Et ça, Alain, je pense que si j'avais dit le contraire, il ferait des bons, il aurait raison.
Non, on le pratique assidûment, hein, ouais. Bien sûr, oui. Nous, le bois de chauffage, c'est le sport local, quoi. Bien sûr. Avec le rituel qui va avec, hein. Oui.
Par contre, qu'on comprenne. Vas-y, Alain.
Juste, oui. Par rapport aux enjeux agricoles, bon, les parcelles agricoles, elles sont réservées, entre guillemets, aux paysans qui sont prioritaires sur leur attribution. Et c'est là où, en Lozère, on assiste à des gros soucis en termes de répartition, parce que la loi a changé, ce sont maintenant les maires qui ont pris, à défaut de commission syndicale, puisqu'il n'y en a qu'une en Lozère, c'est celle de chez Lard-l'Évêque, donc c'est pour ça qu'Alain...
Et tu voulais en parler en cas contraire. Ouais.
Du coup, il n'y a pas de commission syndicale dans beaucoup de hameaux, donc à défaut, ce sont les maires et les mairies, les conseils municipaux qui gèrent ça, et on assiste à beaucoup de clientélisme locaux, et ça crée beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes, parce que derrière les biens de section agricole, il y a vraiment des enjeux de la PAC.
Oui, justement, par rapport aux difficultés, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, hein, évidemment, qu'il y a quelques années, ou même quand ça a commencé avant la Révolution. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous avez, vous, en tant que paysan, avec ces sectionaux ?
Mais disons que la loi est venue modifier beaucoup de choses et a donné beaucoup de pouvoir aux maires. Donc on pense que ça se passait beaucoup mieux quand vraiment les gens se mettaient autour de la table, et le fait qu'il y ait eu des commissions syndicales, je pense que ça se passait beaucoup mieux. On s'est écharpé sûrement aussi un peu, mais il y avait moins de clientélisme et les choses se réglaient un peu comme ça, plus facilement, de manière collective, que quand il y a une personne qui décide pour tout le monde et qui est souvent, bien souvent concernée elle-même, puisque souvent les maires de nos petites communes rurales sont également paysans. Et il y en a qui n'hésitent pas à se servir plus que d'autres. Et comme je te le disais, Ben, l'histoire de la Confédération paysanne de Lozère est très très liée à la problématique des sectionnaux, puisque je sais que la dynamique lozérienne a redémarré sur un combat à Nasbinal. Et Bernadette était là, et je pense qu'elle a participé à la mobilisation avec Jean-Paul à Nasbinal. Parce que là-bas, il se passait n'importe quoi. Il y avait beaucoup de sous-location et il y avait vraiment vraiment terrible ce qui se passait là-bas.
Il y avait
là-bas.
Beaucoup d'argent à la clé aussi.
Beaucoup de location.
Et n'hésite pas à parler dans le micro, surtout.
Non, mais j'ai soufflé à l'oreille.
Ah. Oui, il y avait de l'argent derrière à la clé, oui, bien sûr, hein, sinon il n'y aurait pas eu autant de tensions. Et la Confédération paysanne est allée mettre de l'ordre là-dedans. On a fait une grosse action de mobilisation. D'ailleurs, José Beauvais était venu nous aider et s'était déplacé pour l'occasion, pour montrer que la problématique du foncier était importante. Et à grand coup de tribunal et de mobilisation, on est enfin arrivé à mettre de l'ordre dans tout ça et à faire en sorte que les choses se répartissent de manière plus légale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires, entre guillemets, même s'ils ont le pouvoir encore de décider, essayent de faire moins de clientélisme. Tu veux dire que ça va mieux ? C'est ça que je comprends ?
Mais disons que si on maintient la pression derrière, okay. Ça va mieux.
Oui. Bernadette, justement, toi, donc tu es, comme on le disait dans l'intro, productrice de viande bio à Grand-Rieu. Comment ça se passe pour toi au niveau de l'exploitation ? Et si j'ai bien compris, vous êtes deux exploitations associées, c'est ça ?
Voilà. On a pris un jeune avec nous à Angaec, qui est sur notre site, sur Saint-Denis-en-Margeride. Et là, cette année, quand il y a eu la redistribution de sectionaux, sur un village où il n'y a plus d'ayant droit, le maire, les adjoints et les conseillers municipaux font partie de la commission, font partie du conseil, donc on se sert, et puis les autres, voilà. C'est un peu ce qu'elle disait, Muriel.
Et justement, est-ce que il y a une durée en fait sur ces sectionnaux, c'est pour combien de temps ?
6 ans.
6 ans.
Les durées qu'on se donne.
Oui, parce que il y a moyen de faire des deux types de baux, un bail normal, un bail à ferme de 9 ans, ou des conventions pluriannuelles de pâturage. Et en général, ce sont des conventions pluriannuelles de pâturage qui sont faites, parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'il y a quelqu'un, ça bouge. S'il y a quelqu'un qui vient s'installer sur la section et qui devient ayant droit, voilà, il va falloir redistribuer les terres.
Il y a toujours un lot vacant. Dans la distribution, quand on fait une distribution,
il y a
un lot vacant normalement qui doit être attribué à un nouvel arrivant.
Ça, hélas, je crois que ça a été supprimé dans la loi.
Les situations sont différentes selon les communes. Avant, et je pense que ça n'existe pratiquement plus, il y avait des baux amphithéotiques, c'est-à-dire des baux de carrière.
C'était illégal.
Et le gros problème, c'est quand un nouvel agriculteur s'installait sur la commune et demandait sa part de sectionnaux. Il fallait casser les baux amphithéotiques, et c'est pour ça que c'est illégal, quoi. Donc, la plupart des communes de Lozère, petit à petit, pour se couvrir, travaillent avec la SAFER, et la SAFER font des conventions de mise à disposition de 6 ans, je peux en parler puisque j'en suis attributaire, qui sont normalement renouvelables une fois. Voilà, donc ce qui veut dire que 6 plus 6, 12, et quid au bout de 12, on n'en sait rien. On a posé plusieurs fois en réunion la question aux représentants de la SAFER. Normalement, au bout de 2 CMD, convention de mise à disposition, ça doit devenir un bail à ferme. Voilà.
Juste avant de continuer, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est quoi une SAFER, c'est quoi la SAFER ?
La SAFER, c'est l'organisme qui est là pour, on va dire, superviser tout ce qui est foncier au niveau des achats, mais aussi au niveau des locations. Donc c'est un peu elle qui régit tout ce qui est foncier agricole. Alors c'est un organisme privé à vocation publique, avec une mission de service public. Mais ça reste un organisme privé. C'est une société anonyme, la SAFER, dans laquelle siègent les organisations syndicales. Et maintenant, on a réussi à obtenir le pluralisme syndical, ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était seulement la FNSEA et les JA qui siégeaient, qui avaient les rênes de la SAFER. C'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes. Maintenant que c'est un petit peu plus ouvert, donc on arrive aussi à savoir ce qui se passe à la SAFER. Donc, elle a quand même obligation de résultats financiers. C'est-à-dire que c'est pas un organisme philanthropique. Hein. Elle peut pas se le permettre, on va dire. J'espère que M. Meruès ne va pas avoir les oreilles qui sifflent trop. Mais bon, voilà, elle a une mission de service public qui est de régir tout le foncier, les ventes, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation autour de ces ventes.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'encore une fois, on parle aussi là de possibilités de clientélisme à partir du moment où elles ont une espèce de... Là, ça fait une espèce de monopole, en fait.
Et oui, mais bon, normalement, maintenant, on a quand même des commissions qui sont ouvertes, on siège dans ces commissions. Alors, c'est pas parfait, il y a encore des choses, beaucoup de choses à améliorer, mais on a fait beaucoup de progrès.
Allez, on va rester là-dessus. François, on parlait, donc toi, t'es dans les amis de la Confédération Paysanne. Les habitants ont un rôle à jouer et les amis de la Confédération aussi dans justement ces sectionnaux.
Alors, enfin directement sur les sectionnaux ou si le cas se présente effectivement, mais peut-être je vais juste préciser ce qu'est cette association des amis de la Confédération avant d'arriver sur le sujet. Voilà, donc c'est donc une association qui a été créée au niveau national. Je sais plus exactement la date, mais c'était au début des années 2000. à une époque où il y avait notamment des procès de faucheurs volontaires d'OGM. Et la Confédération paysanne était donc embarquée dans des soucis judiciaires, et il y avait besoin de sous à ce moment-là, en fait. Il y avait besoin de soutien financier, donc il y a un appel qui a été fait aux citoyens. Et c'est à cette occasion-là que cette association s'est créée. Alors au départ, la vocation, c'était le soutien financier. Puis très rapidement, il y a eu une prise d'autonomie. Donc par ces citoyens qui ont voulu ne pas simplement faire un soutien financier, mais créer tout un tas d'actions, faire le lien entre les paysans et les citoyens pour parler d'agriculture paysanne. C'est devenu, on va dire, une association d'éducation populaire. Et c'est également pour soutenir des manifestations, des fêtes paysannes comme celles qu'on a aujourd'hui, ou plein d'autres choses. Voilà, donc ce qui est intéressant dans cette association, c'est qu'elle montre que la Confédération paysanne est un syndicat, et pour moi le seul syndicat agricole qui est réellement ouvert sur les problématiques de société. C'est pas un syndicat purement corporatiste, et pour moi c'est vraiment ce qui fait la force de la Confédération paysanne. Donc il y a ce lien, il est intéressant parce que les citoyens peuvent justement soutenir par le biais de cette association les paysans dans leur combat. Alors ça peut être justement des questions de section, ça peut être aussi participer à d'autres mobilisations, et les paysans eux-mêmes de leur côté savent qu'ils ont aussi le soutien de citoyens, et ça c'est une force importante.
En Lozère, vous êtes combien dans l'association à peu près, vous savez?
Alors on est vraiment peu d'adhérents, je crois qu'on est une dizaine, quelque chose comme ça. Donc c'est pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire connaître cette association qui est peu connue, et que des personnes qui ont envie de soutenir la Confédération paysanne et qui ne peuvent pas adhérer directement à la Confédération paysanne, puisque c'est un syndicat professionnel agricole, puissent le faire par le biais des amis de la Confédération paysanne.
Un des objectifs de la fête paysanne d'aujourd'hui, c'est justement de relancer la dynamique des amis de la COF au niveau départemental, pour créer un noyau et nous aider à organiser la prochaine fête paysanne, entre autres actions prévues par la COF 48.
Si vous écoutez Bartas et que vous êtes du côté de Florac, n'hésitez pas à venir, il fait beau et on est plutôt pas mal. On va revenir à quand même ce sujet qui sont les sections. Comment on fait et comment ce serait possible pour que chaque citoyen, citoyenne, sache que ça existe? Parce qu'au final, nous-mêmes en tant que journalistes, on savait pas que ça existait.
Alors oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez confidentiel, je dirais. Et ben, on est là aussi aujourd'hui pour en parler et pour faire en sorte que ça se sache. Alors c'est sûr que les Cévennes ne sont pas très très concernées, mais dès qu'on sort un petit peu, par exemple au Bondon, on a des sectionaux, et on a eu une lutte récemment là pour installer deux jeunes qui étaient ayant droit et auxquels le maire ne voulait pas attribuer de sectionaux, et on a gagné grâce à la mobilisation des gens locaux et des alentours de Florac. Ils n'étaient pas adhérents spécialement aux amis de la conf, mais ils avaient compris quel était l'enjeu. L'enjeu, c'était l'installation de jeunes couples sur le territoire. C'était qu'un paysan ne s'accapare pas tout le foncier sur cette section. Et voilà, et on a réussi à débloquer la situation. Donc voilà, c'est un exemple un peu concret, et c'est vrai que ça fait plaisir quand on arrive à aboutir, et tout seul, peut-être que nous, Confédération Paysanne, on n'y serait pas arrivé. Et d'où l'intérêt de fédérer les habitants.
Je voulais rebondir là, si c'est possible, sur ce qu'a dit Muriel. Pourquoi c'est pas connu le sectionneau? Je vais vous répondre ce que m'a dit en off un jour mon maire. Les sectionneaux, c'est un nid à merde. Voilà, c'est un nid à merde, parce qu'en fait, souvent, c'est reconduit de génération en génération de paysan qui reprend la ferme de son père, et en fait, c'est pas vu comme un bien commun, c'est vu comme quelque chose qui est acquis dans la propriété, dans la ferme familiale. Et donc, en fait, dès qu'il y a un nouvel agriculteur qui s'installe, et je peux en parler puisque ça a été mon cas, et qui demande sa part de sectionnaux,
ça fout la merde, parce que concrètement, les sectionneaux ne sont pas extensibles. Et donc, pour donner un lot à quelqu'un, il faut le prendre aux autres. Hein. Donc, vu les enjeux financiers, comme disait Muriel tout à l'heure, de la PAC, c'est pas tant des terres qu'on lui retire, parce que les paysans, ils sont comme tout le monde, hein, ils sont pas jaloux du travail. S'ils en avaient moins du travail, ils seraient bien contents. Hein. Le problème, c'est qu'on leur retire pas que des terres, on leur retire du revenu, quoi. Et donc, c'est pour ça que ça crée des tensions fortes à certains endroits.
Ouais, je vois les micros qui commencent à frétiller.
Pour rebondir là-dessus, donc les sectionneaux, comme a dit Alain, permettent des installations nombreuses dans des endroits où il y a beaucoup de sectionneaux. Par contre, ce qui est à mon sens dommageable, c'est que on est attributaire de sectionnal que quelqu'un qui est déjà installé agriculteur à titre principal. Il y a un règlement des biens de section avec des rangs d'attribution qui dit clairement que seuls les agriculteurs à titre principal, donc qui sont déjà installés, peuvent avoir des sectionnaux. Alors, c'est un levier de confortation d'exploitation. Moi, j'ai pu en bénéficier parce que j'avais une petite ferme de 0,8 hectares en maraîchage en bail et j'ai pu être attributaire de 1,3 hectares de sectionnaux. Mais si j'avais pas eu les 0,8 hectares, je n'aurais jamais pu avoir les sectionnaux. Alors ça, c'est dommage et ça pourrait être un levier d'installation pour des paysans nombreux, pour des campagnes vivantes, un des vieux slogans de la conf.
Ceci dit, les jeunes agriculteurs qui sont mis au bon don, je crois, tu disais tout à l'heure, eux n'avaient pas de terre.
Si, si.
Ah.
Ils avaient acheté des terres, et comme le dit Julien.
Donc il y a quand même le minimum requis de combien, tu disais?
Il y a plus de minimum requis, en fait, depuis la réforme de la MSA, et ça dépend des productions.
Hein. Faut avoir le statut à titre principal. C'est-à-dire, faut être installé et reconnu comme agriculteur à titre principal. Un cotisant solidaire, on va dire, n'aura pas droit aux sectionnaux. Voilà, c'est la nuance. Et ça, c'est des évolutions qui sont arrivées petit à petit. Hein. La loi d'avenir de 2014 a quand même profondément chamboulé les règles d'attribution. Et du coup, forcément, il y a des choses qui pourraient être améliorées largement. Parce que je vois pas pourquoi quelqu'un qui est en train de s'installer de manière progressive n'aurait pas droit à être conforté. Voilà. Par contre, là où je mettrais un petit bémol, c'est que c'est délicat d'installer quelqu'un purement sur du sectionnal parce que c'est du précaire. Je veux dire, ça peut être remis en question assez facilement par l'arrivée d'une autre personne, parce que le fait qu'il y a des conventions de mise à disposition qui sont de courte durée. Voilà, on peut pas installer quelqu'un de manière un peu solide sur quelque chose d'aussi précaire, je dirais. Et souvent, quand même, il faut le dire, c'est quand même pas des belles terres. Donc en termes de valeur agronomique, il n'y a pas beaucoup de terres à maraîchage. Donc c'est essentiellement des terres pastorales.
Quelles seraient alors, donc là on parle de difficulté de s'installer surtout en Lozère, j'ai bien l'impression. Donc à quel niveau, enfin on parle des sectionnaux, mais quelles sont les autres difficultés que rencontrent les jeunes pour s'installer aujourd'hui en Lozère?
Ah, elles sont nombreuses, hein. C'est un vrai parcours. Hein. Si on veut s'installer et qu'on n'est pas du milieu agricole, déjà on part avec un sacré handicap. Quoi. La course n'est pas la même pour ceux qui sont du milieu et ceux qui ne sont pas du milieu. Moi personnellement, j'étais pas issu directement du milieu agricole et encore moins de Lozère. Donc là, c'est sûr qu'on part avec un peu de problèmes en plus. Accéder aux premières terres, ça c'est le problème. Hein. L'accès au foncier reste le frein majeur pour l'installation. Trouver un bout de terrain pour faire du maraîchage, c'est plus dur que de trouver une ferme clé en main. Après, trouver une ferme clé en main, il faut trouver les sous pour aller la faire vivre. Il faut avoir les reins très solides, et ce qui n'est pas le cas d'un jeune qui cherche à s'installer en règle générale, hein, à moins qu'il soit déjà issu du milieu, qu'il travaille déjà avec ses parents, et que ce soit une installation en GAEC. Là, c'est plus simple, on va dire. Tant mieux. Mais on va dire ça résout pas tous les problèmes, parce qu'il y a énormément de gens hors cadre familial qui cherchent à s'installer. Et c'est une chance pour notre territoire, puisque on va dire que actuellement le renouvellement des générations, il est absolument pas assuré. Il y a énormément de paysans qui vont partir en retraite dans les 10 prochaines années, et on n'a pas derrière le potentiel en termes de jeunes en Lozère issus du territoire qui peuvent renouveler ces fermes. Donc c'est important aussi de faire en sorte que l'installation de hors cadre familiaux soit possible. Ça, c'est plus compliqué.
Adèle.
Oui, j'avais une question justement sur la transmission. Est-ce que ça serait pas possible, est-ce que c'est déjà mis en place, de faire par exemple des rencontres entre des agriculteurs plus anciens et qui souhaitent du coup transmettre leur ferme?
Alors la question tombe à pic. Ce matin, je crois que la Lodéar a prévu de faire un café installation transmission. Voilà, c'est pas évident, mais disons que la Lodéar, donc l'association lozérienne de développement de l'emploi agricole et rural, qui est un peu l'association sœur de la Confédération paysanne, qui s'occupe davantage de développement et d'installation, essaye justement de mettre en relation des cédants ou futurs cédants et des porteurs de projets. Voilà. Après, c'est pas facile parce que bien souvent, les cédants qui n'ont pas de successeur dans la famille veulent que leur terre parte à un projet crédible. Voilà, c'est leur préoccupation majeure, c'est que les terres soient bien exploitées et que les voisins ne disent pas, t'as vu, les terres, il les a louées ou vendues à un porteur de projet hors cadre familial, même pas issu de la région, et t'as vu ce qu'il en fait, c'est n'importe quoi, c'est pas bien entretenu. Voilà, ce qui est important, c'est que ça soit entretenu. Sauf que pour faire ces preuves, je rejoins tout à fait ce que disait Muriel, pour pouvoir faire ces preuves, il y a des porteurs de projets qui sont très motivés, très sérieux, très formés, qui feraient des très bons paysans. Mais pour pouvoir faire ses preuves, il faut commencer à trouver du foncier, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue. Tant que on n'a pas la chance, moi je m'inclus dans cette remarque-là, tant qu'on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui vous fait confiance pour vous louer, vous prêter, vous vendre du terrain, comment voulez-vous qu'on prouve qu'on est un bon paysan et qu'on peut bien gérer des terres?
Alors à la question, ouais François.
Oui, je veux bien rebondir là-dessus parce qu'on parle de projets crédibles notamment, et justement la particularité de la Lodéar, c'est qu'elle accompagne des personnes donc dans leur parcours d'installation, et comme disait Muriel, c'est quand même très souvent des personnes qui sont pas issues du milieu agricole, donc qui partent déjà avec un handicap, et ces personnes-là, elles ont besoin justement d'avoir un accompagnement spécifique, parce que bon, certaines personnes arrivent avec une idée très précise, elles ont déjà d'expérience, elles savent ce qu'elles veulent faire, donc là c'est plus facile à accompagner, j'ai envie de dire. Et puis il y a d'autres personnes qui arrivent là sans vraiment connaître le métier, et donc elles ont besoin de s'y confronter. Et justement, la particularité de notre accompagnement, c'est que chaque personne qui vient nous voir est en lien, peut être en lien et peut faire des stages avec les paysans de la Confédération paysanne. Et c'est ce lien en fait qui fait la richesse de notre accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas là juste pour faire un accompagnement technique, mais on va vraiment partir du projet des personnes, les interroger, les questionner, les mettre en relation avec des paysans, et faire en sorte que quand elles arriveront avec un projet ficelé, ben elles auront aussi plus de crédibilité pour pouvoir justement trouver du foncier, trouver des exploitations à reprendre, et ça c'est quand même vachement important.
Muriel, ça te fait sourire?
Non, je dis, en off, François, t'es encore salarié de la Lodéar.
Et tu disais tout à l'heure que des choses pouvaient être améliorées, tant au niveau des attributions des sections ou même du foncier. Qu'est-ce que aujourd'hui, ce serait quoi le rêve si on vivait dans un monde idéal?
C'est de redonner du pouvoir aux habitants de la section et d'encadrer les choses avec une loi qui soit adéquate et qui favorise pas le clientélisme. Et une loi qui favorise vraiment l'installation, la confortation et le droit des ayants droit de la section pour tout ce qui concerne la fouage. Et ça, c'est important que tout le monde trouve son compte, que la multifonction de la terre soit reconnue. Ça passe aussi parce que les gens veulent aller ramasser les champignons. Il y a l'histoire du droit de chasse derrière aussi, le droit au bois de chauffage. Je trouve que c'est important. Et ça permet de redonner de remettre du lien dans les petits hameaux, que de gérer les choses collectivement et pas s'en remettre seulement à une décision d'un maire qui peut être arbitraire et parfois, je dis parfois parce que c'est pas, je veux pas accuser tous les maires des communes de faire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on a constaté en Lozère qu'il y avait souvent des soucis, et je pense que la direction des territoires la direction départementale des territoires fera le même constat que nous. On siège aussi dans les instances et on voit que eux aussi souffrent de ces problèmes.
Je voulais rebondir sur ce que disait Muriel sur la gestion collective d'un commun, justement, remettre du commun au centre du jeu. Il me revient à mémoire une remarque qu'avait fait un de mes voisins, donc de l'ancien village où j'habitais, Ortizé, commune de Saint-Pierre-le-Vieux, qui disait, là où il y a une forêt de 100 hectares qui est gérée collectivement par le village, il disait, à Ortizé, tout le monde s'entend pas, il y a des gens qui s'aiment pas, mais tout le monde se parle. Pourquoi ? Parce qu'on a un patrimoine commun à gérer. On a la forêt à gérer, et il y avait aussi une source, l'eau était gratuite jusqu'au 1er janvier 2021. Voilà. Et donc il y avait des choses à défendre et à gérer collectivement. Avoir du commun, ça oblige les gens à se parler, et ça oblige les gens à se connaître. À partir du moment où on délègue le commun à un conseil municipal et à un maire, c'est plus notre problème. Voilà. Et ça, c'est dommage, quoi. Je pense que le commun a vraiment une fonction sociale très très importante, et on est en train de la perdre totalement dans notre société, et pas qu'au niveau agricole, hein, au niveau général.
Alors. C'est du commun et du local, hein, tout à fait. Hein. Et justement, à l'heure où maintenant on voit que les communes doivent absolument s'agrandir, maintenant on voit des communes qui regroupent 4, 5, 6 communes. Et si on abandonne les sectionaux à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça va devenir, la gestion locale? C'est le village qui gère son espace à lui. Et souvent, on laissait entendre que tous ces habitants, de toute façon, ils s'accrochent à des choses désuètes, qui n'ont plus lieu d'être. On vit une époque moderne. Mais maintenant, le bien commun, moi je crois que c'est hyper moderne. Et justement, à l'époque, maintenant, on risque de perdre ce bien commun, où vraiment une administration, une politique s'acharne à le faire disparaître. Il doit absolument ne pas disparaître et revivre. Et justement, actuellement, ce qui paraît incroyable, c'est que il y a une université Savoie, Mont-Lozère, et puis une autre à Lausanne, qui travaille là-dessus, sur les biens communs. Et notamment, il y a le directeur de droit public, Jean-François Joie, qui va venir à Saint-Paulien, juste à côté de Langogne, hein, pour la FASC, l'association de la FASC, le 8 novembre, faire une conférence sur les biens communs. Et entre autres, ils disent que le bien commun, la France se bat pour défendre les biens communs, et par contre, on se constate qu'ils font tout pour le faire disparaître au niveau des sectionnaux. C'est assez paradoxal.
François.
C'est justement là qu'on voit que l'implication des citoyens, elle est vachement importante, en fait, parce qu'on est sur des questions justement de société, des questions hyper complexes, et je crois qu'il faut justement pas laisser ces questions agricoles uniquement aux agriculteurs. Et aujourd'hui, il y a aussi ce qui est porté, c'est le thème de l'alimentation, parce que les paysans, ils sont là pour nourrir les gens, et cette question-là, elle importe à tout le monde. Donc c'est pour ça que tout le monde a un rôle à jouer, et quand on défend des installations, quand on cherche à transmettre des fermes, et ben il faut que tout le monde s'implique là-dessus. Donc, tout à l'heure tu posais la question comment on prend connaissance des sectionaux. Ben moi j'ai pris connaissance quand il y a eu un combat, et c'est comme ça en fait qu'on sait que ça existe, et qu'on se rend compte aussi que ces outils communs, ils sont vachement utiles pour essayer de gérer notre foncier, que ça soit pas uniquement une question privée, quoi.
Ouais, certains combats ne sont pas vains, ça fait du bien. On a encore eu la preuve pour d'autres combats cette semaine, et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Muriel. Tu es élue pour la Confédération Paysanne à la Chambre d'Agriculture. Merci beaucoup. Et tu sais quoi, j'ai noté ton prénom, c'est sûr, Bernadette. Merci beaucoup. Tu es productrice de viande bio du côté de Grand-Rieux. Merci beaucoup, Alain, représentant de l'association AFASC. Vous avez un site internet qui est bien foutu, où on trouve vraiment toutes les infos, et je mettrai le lien sur notre site lundi. On prend un peu de vacances quand même. Un dimanche, ça s'appelle. Merci beaucoup, François.
Eh ben merci. Merci à Radio Bartas d'être venu quand même.
Eh ben merci à 48 FM,
pardon.
Adèle, merci beaucoup. Les amis de la conf, donc vous recherchez de l'énergie toujours et encore. Et à partir de lundi, c'est ça?
Non, à partir d'aujourd'hui.
À partir d'aujourd'hui. Ouais. Allez voir François, vous allez voir, c'est la force tranquille. Et merci beaucoup, Julien, co-porte-parole de la Confédération Paysanne. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, mon Corto. Mais t'inquiète pas, on mettra les enceintes devant la prochaine fois et on prendra les casques. Je t'aime et je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Avero qui a assuré le direct. On vous embrasse tous. Venez si vous êtes du côté de Florac. Il fait bon, on est bien, et je vous assure qu'il y a plein de... si vous êtes à Florac, venez à Balsièges. mais venez tous à Valciège. Il y a plein de couleurs, il y a plein de sourires, la vie est belle. Je remercie aussi du fond du cœur Cynthiana qui nous a appelé, qui nous a permis d'y comprendre un tout petit peu mieux les sectionaux, mais je vous assure que j'en ai encore des sueurs froides. Merci beaucoup Adèle,
merci.
Et gros bisous, et vive les radios associatives aussi. À très bientôt, merci, ciao.
Merci.